Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, bien entendu, on va revenir sur le second tour de l'élection présidentielle en France, à l'issue duquel Emmanuel Macron a donc été réélu. Pour analyser ces résultats et parler de la suite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Romain Fathy, professeur d'histoire à l'université Flinders d'Adélaïde et également chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors, Monsieur Fathy, donc Emmanuel Macron a été réélu, plus largement d'ailleurs que ce que ne prévoyaient ces derniers jours les instituts de sondage, 17 points d'avance sur Marine Le Pen. Ceci étant dit, Marine Le Pen recueille quand même plus de 41% des voix, c'est un score historique pour le Rassemblement National. Est-ce que, du coup, pour Emmanuel Macron, on peut véritablement parler de victoire écrasante?
Alors, victoire écrasante, certainement pas. Victoire, très clairement, 58% est un score très honorable, malgré le fait que ce soit vis-à-vis du Front National, enfin du Rassemblement National. Écrasante, non, puisque ce qui est inquiétant, c'est que l'abstention a été entre 29, 30, voire un tout petit peu plus, 30%. Un tel niveau d'abstention au second tour, ça ne s'est pas vu depuis 1969. Donc c'est inquiétant parce que vous avez 30% du corps électoral français qui soit n'était pas intéressé ou soit a choisi volontairement de ne pas s'exprimer par rapport au choix qui était proposé. Donc effectivement, 58% contre 42% pour Madame Le Pen, mais un tiers du corps électoral quasiment ne s'est pas déplacé. D'une part, ceci n'est pas une victoire écrasante. D'autre part, est-ce qu'on peut parler de victoire quand on se présente contre le Front National? Est-ce un vrai choix? Et ce que je dis n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais le Rassemblement National est l'héritier direct du Front National. Un parti dont certains membres fondateurs ont été condamnés pour xénophobie, racisme, déni de l'Holocauste, homophobie, et j'en passe. C'est très, très inquiétant de voir que un Jean-Marie Le Pen contre Monsieur le Président Jacques Chirac, il y a 20 ans, on avait un score de 84% pour Monsieur Chirac, puis en 2017, un score de 66% pour Monsieur et Mme Macron, et aujourd'hui, en 2022, un score de 58%. Ça commence réellement, on voit que le Rassemblement National a progressé énormément. Donc, est-ce une victoire pour M. Macron? Oui. Écrasante? Non. Et c'est quelque chose d'inquiétant, parce que dans les 5 ans à venir, il va vraiment falloir travailler pour, disons, récupérer un électorat qui est polarisé. Parce que c'est une des leçons de cette élection de 2022, et c'est probablement celle qui, personnellement, m'inquiète le plus, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a plus de votants qui ont voté pour les extrêmes que pour les partis traditionnels, entre guillemets. C'est-à-dire que si nous accumulons les partis d'extrême-gauche, il y en avait 4, et d'extrême-droite, il y en avait 3, nous arrivons à plus de 40% des votants. Or, si nous additionnons les partis de gauche traditionnels, le PS, Europe Écologie Les Verts, La République En Marche, au centre et au centre droit, et le parti de Mme Pécresse, Les Républicains, qui sont les partis traditionnels modérés, seuls un peu plus de 30% des votants ont soutenu ces partis au premier tour. Donc, pour la première fois, on voit très clairement que l'électorat se divise plus dans les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, que sur les partis, comme j'ai dit, traditionnels, surtout modérés en réalité.
Alors, sur ce dernier point, du fait de l'émergence, il y a 5 ans maintenant, d'un parti centriste qui a en gros complètement avalé les partis de gouvernement traditionnels, le PS, une partie des Verts, une partie des Républicains, est-ce que ça n'est pas logique au final que les seules alternatives à ce parti centriste qui a tout avalé, ce soit l'émergence de partis à la frange des deux côtés, donc à la fois à gauche et à droite.
Vous avez raison, mais je qualifierais ça en disant raison d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'offre politique semble réduite et si le centre cannibalise, entre guillemets, la partie centriste de la gauche et centriste de la droite, effectivement, ça ne laisse plus beaucoup de place pour l'existence de ces partis de pouvoir, comme vous avez dit, de gouvernement. Ce qui est un problème, puisque ça polarise l'échiquier politique, puisque certains vont s'affirmer encore plus à gauche ou alors encore plus à droite. Bon, ça, c'est la résultante d'une logique, effectivement, que vous avez présentée. Mais en plus de cette logique, je pense qu'il y a vraiment, chez une partie de l'électorat, une logique assez claire de radicalisation, soit vers l'extrême gauche, soit vers l'extrême droite. Parce que si le Parti socialiste, si les Républicains continuaient à attirer l'électorat, il n'y a pas de raison pour que ces partis-là se fassent cannibaliser par un parti du centre, a priori. Sachant qu'en France, la division gauche-droite est profondément marquée dans les esprits, s'est ancrée en nous depuis la Révolution qui a structuré ce paysage politique français. Donc il y a effectivement le jeu du parti La République En Marche, qui, de fait, prend des voix sur sa gauche et sur sa droite, mais il y a aussi une partie des Français qui exprime d'autres attentes. Et c'est probablement ça qui va être le plus délicat à gérer. Parce que des partis du centre, ça va, ça vient. Il y en a eu dans l'histoire de la 3e, de la 4e, de la 5e République. Ça, ce n'est pas un souci pour la démocratie. Ce qui est un souci, c'est quand vous avez une partie du corps électoral qui ne se reconnaît plus dans les valeurs démocratiques de la nation française. Là, effectivement, ça devient un réel enjeu, un enjeu national. Et il est du devoir du corps politique du centre, hein, que ce soit M. Macron, que ce soit le Parti socialiste ou la droite républicaine, que de se ressaisir et de proposer une offre politique qui séduise les Français et les sortent de cet extrémisme, de cette radicalisation politique.
Un autre point sur lequel je voulais revenir, vous évoquiez tout à l'heure le niveau très élevé de l'abstention pour ce second tour et pour un second tour de l'élection présidentielle en général. Et cette abstention très forte, combinée au fait que Marine Le Pen a quand même recueilli plus de 40% des voix, est-ce que Emmanuel Macron ne va pas se retrouver tout de suite face à un problème qui est que sa légitimité va être remise en cause? Vous le disiez, il n'était pas contre n'importe quel adversaire, il était contre un adversaire d'extrême droite, et sous cet angle de vue, au final, 58%, c'est pas tant que ça. Et donc, est-ce qu'il ne va pas se retrouver avoir en permanence sa légitimité remise en cause?
Alors, je vais répondre à votre question en deux temps, parce que je pense qu'il y a deux faces de la médaille. Vous aurez ceux qui, effectivement, vont dire: quelle légitimité a un président élu face à un parti d'extrême droite? Qui plus est, quelle légitimité a un président élu face à un parti d'extrême droite à 58% quand 30% du corps électoral s'abstient? À cela, vous avez un autre camp qui va répondre: Monsieur Macron a été élu par la résultante d'un processus démocratique dans lequel les Français pouvaient choisir parmi 12 candidats. Il y avait 12 candidats au premier tour. Alors certes, tous n'avaient pas les mêmes chances de réussite, mais c'est le principe d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on vote pour ce que l'on considère être le plus à même de mener le pays vers le succès et la réussite, mais qu'on accepte le principe du deuxième tour. Ce n'est pas le vote préférentiel à l'australienne, ce n'est pas un vote au fois, c'est des élections au suffrage universel direct en deux tours. Si ce modèle ne convient plus, alors il faut le repenser. Et ça, ce n'est pas exclu. Ça fait assez longtemps qu'on parle de 6e République. Se pose la question de comment on élit le président. D'ailleurs, certains candidats de gauche lors de cette élection proposaient de revoir le mode d'élection du président de la République pour justement qu'on se focalise plus sur les institutions démocratiques, sur le Parlement, plutôt que l'élection d'un homme ou d'une femme. Parce qu'après tout, effectivement, le président ou la présidente de la République en France a énormément de pouvoirs qui lui sont octroyés par la Constitution. Mais dans la pratique, ce qui compte et ce qui est très important, c'est l'Assemblée nationale. Et le Sénat, évidemment, dans une autre mesure, mais l'Assemblée nationale. Et donc, je reviens pour répondre à votre question sur cette idée de légitimité. La légitimité de M. Macron, on pourra être fixé dessus une fois que les élections législatives auront eu lieu en juin.
Vous parliez des législatives, c'était le point suivant que je voulais aborder. Elles auront donc lieu dans un mois. Et justement, je m'interrogeais, quelles sont d'après vous ces chances que son parti l'emporte aux législatives, sachant que, encore une fois, il est certes arrivé en premier lors du premier tour, il a gagné le second tour, mais avec une bonne partie de voix d'électeurs de gauche, auxquels il n'a finalement donné qu'assez peu de signes, qu'il allait un petit peu amender son programme pour l'adapter peut-être aux attentes d'une partie de l'électorat qui ne s'était pas portée sur lui vers le premier tour. Est-ce que une possibilité de cohabitation dès le début de son mandat est possible, d'après vous ?
Dans un régime démocratique, tout est possible. En réalité, si l'on considère les options, alors déjà, il faut rappeler que le président lui-même a reconnu lors de son discours hier soir qu'effectivement, il y avait beaucoup de Français qui s'étaient abstenus. Il a aussi reconnu qu'il va falloir gouverner pour tous les Français. Et il a aussi reconnu que, voilà, être élu par rapport vis-à-vis de l'extrême droite, ça pose certaines questions. Donc, je pense que M. Macron est tout à fait conscient des enjeux qui vont se poser pour son second mandat, qui sera probablement et paradoxalement le plus difficile. Vis-à-vis des élections législatives, ça va peut-être vous paraître très, très vieille France et très gaulliste, je vais vous dire, mais bon, les Français probablement préféreront l'ordre et le progrès. Et par ça, je veux dire que de manière générale, quand on, en tant qu'historien, moi je suis porté à regarder ce qui s'est passé par le passé, généralement, on octroie au président sa majorité, d'une part. Donc il y a, premier point, on donne généralement la majorité au président que l'on a élu. Deuxième point, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir, voilà, 42% des suffrages exprimés pour Mme Le Pen? Est-ce qu'on pourrait avoir une chambre à l'Assemblée nationale avec des députés du Rassemblement national? La réponse est non. En 2017, souvenons-nous-en, Mme Le Pen avait recueilli 34% des suffrages et pourtant, il y avait eu 6 députés sur quand même 577. Autrement dit, le Front National en France n'est pas une force politique institutionnelle.
Alors, je suis d'accord, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais le premier élément, c'est que en 2017, effectivement, il y a toute une vague de députés En Marche qui ont été élus. Beaucoup étaient des novices en politique. Et parmi ceux-ci, au final, 5 ans après, il y en a quand même très peu qui ont émergé, qui se sont distingués. Donc, pas sûr qu'ils soient reconduits simplement parce que le président a été réélu. Par ailleurs, il y a certes assez peu d'élus Rassemblement National, mais visiblement, il semble se former une espèce d'alliance de la droite dure, on va dire, Éric Zemmour, le Rassemblement National, probablement un certain nombre d'élus toujours républicains qui vont franchir le Rubicon, et ce qu'on peut appeler la gauche radicale derrière Jean-Luc Mélenchon. Enfin, moi, ce que je remarque, c'est qu'on n'a plus exactement, justement, 2 blocs gauche-droite, mais 3, et donc 3 qui ne communiquent pas du tout entre eux et qui ne pourront pas faire d'alliance ou de coalition. Enfin voilà, ça semble difficile d'émerger avec une majorité claire alors qu'il y a 3 forces à peu près équilibrées, au moins sur le papier.
Alors voilà, au moins sur le papier. Ce que vous dites est extrêmement important et extrêmement intéressant. Et je vais reprendre ce que je disais tout en vous répondant. À part le maréchal Pétain et Philippe Laval dans les conditions que l'on connaît, il n'y a jamais eu d'unification de l'extrême droite en France. C'est extrêmement compliqué. Le seul qui s'en est approché, c'est Jean-Marie Le Pen. Mais, même avec Jean-Marie Le Pen, on se souvient des fissions qui s'étaient produites au sein du Front National avec, par exemple, Monsieur Maigret.
Ouais.
Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où Madame Marine Le Pen, qui a pourtant porté les suffrages de l'extrême droite à leur plus haut niveau historique, est contestée par une certaine partie de l'ancien électorat du Front National qui s'est tourné vers M. Zemmour. Et ces deux partis, finalement, auraient effectivement raison de travailler en bonne intelligence, mais sur des points idéologiques, je pense que ça va être très, très compliqué. Parce que c'est des nuances d'extrême droite assez différentes. C'est des manières de concevoir la France assez différentes. Donc je pense que ça va être très compliqué. Peut-être qu'ils pourront afficher une unité de façade pour les élections, mais une fois les élections passées, cette unité va se disloquer. Ça, c'est le problème fondamental de l'extrême droite française. Donc, on peut douter, disons, de la représentativité et de l'aspect démocratique de l'élection des parlementaires en France. Ça, c'est une question. On peut la traiter. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, ça m'étonnerait très franchement que le Front National puisse passer. Du côté de la gauche, c'est pareil. Comment M. Mélenchon s'est déjà proposé, a déjà demandé aux Français de l'élire Premier ministre. Bon, alors cette proposition est intéressante, mais pareil, il se présente comme le père de l'Union populaire. Il ne s'agit pas de l'Union des gauches, il s'agit de l'Union populaire. Or, ça m'étonnerait qu'un Yannick Jadot soutienne un M. Mélenchon. Ça m'étonnerait qu'une Mme Nathalie Arthaud soutienne un M. Mélenchon. Ça m'étonnerait encore plus qu'une Anne Hidalgo, avec la tradition du Parti socialiste, soutienne Mélenchon. Donc, à partir du moment où vous avez un paysage politique français divisé et fragmenté, forcément, c'est la force la moins désunie qui l'emporte. Et a priori, la force la moins désunie du moment, c'est La République en marche. Et ce qui est intéressant là-dedans du point de vue historique, c'est que avec ce paysage politique, on arrive à recréer de la troisième ou de la quatrième République dans la cinquième République. La cinquième République a été créée pour éviter l'instabilité parlementaire et ministérielle chronique. Alors l'instabilité ministérielle, on en est très loin, mais l'instabilité parlementaire, il se peut qu'elle frappe à notre porte. Donc là, vraiment, je n'ai pas de boule de cristal, mais on est dans une situation très intéressante, disons intellectuellement, mais probablement très préoccupante pour l'avenir de la Ve République.
Un dernier point, Monsieur Fati, concernant la relation entre la France et l'Australie. Cette réélection de Emmanuel Macron, est-ce qu'elle va y changer quelque chose ou c'est plutôt l'élection australienne, est-ce qui en résultera qui pourrait amorcer une reprise du dialogue?
Alors, généralement, la politique diplomatique de la France est assez stable. Que l'on passe d'un candidat de gauche ou d'un candidat de droite, de M. Sarkozy à M. Hollande ou à M. Macron, d'ailleurs on a vu certains ministres continuer, hein, est assez stable. Je reprends ce qu'avait dit M. Le Drian lors de l'affaire des sous-marins, c'est que toute collaboration avec l'Australie est possible, toute la collaboration avec le gouvernement Morrison l'est beaucoup moins. Donc très clairement, c'est si la ligne politique à Paris est la même qu'elle l'était il y a quelques mois, très clairement, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement de gouvernement, puisque la France probablement va conserver un gouvernement de la République en marche. Donc à ce moment-là, il faut une évolution côté australien, parce que cette relation qui existait, qui avait été construite de longue date, d'abord par le président François Hollande, puis par le président Emmanuel Macron, et par leurs homologues australiens, cette relation, malheureusement, a été abandonné par le gouvernement Morrison dans les circonstances que l'on connaît, qui n'étaient très franchement ni très amicales, ni très diplomatiques. Je vois mal la France oublier en si peu de mois ce Trafalgar diplomatique qu'elle a subi du fait de l'Australie, mais surtout du fait des États-Unis et de la Grande-Bretagne en réalité. Donc il faudra attendre les élections australiennes fédérales au mois de mai, pour se projeter dans cette relation franco-australienne nouvelle.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain Fati, encore une fois, pour, comme d'habitude, vos lumières nous sont précieuses. Merci à vous.
Je vous remercie. Bonne journée à vous.
Bonne journée.